Je regardais la dernière fois que j'ai pris la parole pour un message, c'était en 2023. C'est dire si je suis content d'être là devant vous. Le temps a passé. Hop, oui, j'ai un peu toute ma logistique. Voilà, Cédric, si tu peux mettre magnifique, hein. L'espérance d'un grain de blé. C'est le titre du message que je vous propose aujourd'hui. Pour celles et ceux qui cheminent avec nous depuis en tout cas le début de l'année, vous serez pas surpris de reconnaître le terme clé de notre vision, porteur d'espérance pour 2025. On chemine dans cette vision-là. Et on va prendre aujourd'hui un petit détour par l'image du grain de blé. Parce que nous définissons et nous cherchons à comprendre ce qu'est l'espérance à partir du livre d'Ésaïe qui nous sert de carte pour la route. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur un passage de l'évangile de Jean qui me parle beaucoup, mais tout en restant dans cette thématique. Durant la semaine de prière qu'on a consacrée à la recherche de la volonté de Dieu pour cette vision, j'ai été marqué par cette image. Ça vient d'une parole de Jésus, une parabole qui dit que le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, reste seul. Il y avait quelque chose là-dedans, dans cette image de tellement puissant et de tellement fort qui m'a percuté. Le grain qui meurt pour donner vie à des centaines d'autres grains. Il y a quelque chose d'universel dans cette vision d'un sacrifice. On retrouve là presque la sagesse du Créateur inscrite au plus profond de la nature. Quelque chose qui nous montre que l'espérance de la vie ne passe parfois que par l'expérience d'une certaine mort. Et pourquoi, au-delà du naturel, est-ce que cette image-là a quelque chose d'universel qui parle à toutes les cultures ? Eh bien parce que le monde entier veut vivre, le monde entier veut percer la croûte terrestre, veut passer cette épreuve, vivre en abondance, vivre par-delà la mise en terre. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui à travers les yeux et les mots de Jean et de son évangile. Et on va le faire en trois temps avec le texte qui va nous accompagner. Premièrement, on va s'arrêter sur ce désir universel, la demande du monde. Et puis après, simplement transitionner vers la réponse de Dieu avant de nous arrêter sur ce que j'appelle le cœur de l'espérance chrétienne. Et pour ce faire, on retrouve Jésus et ses disciples à quelques jours de la Pâque juive. Ils viennent d'entrer à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Jésus est entré sous les acclamations, assis sur un ânon. Et quelque temps après, voici ce qui se passe. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus, et Jésus leur répondit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Alors essayons d'imaginer la scène. On est à Jérusalem, premier siècle de notre ère, c'est la semaine de la Pâque. Des milliers de pèlerins de tout l'Empire se pressent dans les rues gardées par l'Empire romain et Jésus est là au centre de l'attention. Les pharisiens sont effrayés, il y a de la tension Ce groupe-là risque de perdre leur place et leur autorité aux yeux du peuple. Beaucoup de personnes, à contrario, qui suivent Jésus trépignent d'impatience. Ils s'imaginent que peut-être enfin le moment est arrivé de son avènement, le Messie est révélé, la conquête du trône de David va débuter. Et dans ce contexte-là, Jean nous rapporte la demande de un groupe de non-juifs, sans doute des personnes donc de culture grecque, mais qui pourtant suivent les instructions, ils suivent la Torah du Dieu d'Abraham, et ils ont une demande. Ils veulent voir Jésus. Comment comprendre cette simple question dans un contexte avec autant d'attentes et de tensions? Alors, certains commentateurs voient ici comme une anticipation littéraire. Jean aurait comme déjà décrit la future église où juifs et non-juifs chercheront ensemble le Seigneur. Il y aurait ici comme une prophétie sur les nations qui seront incluses dans le peuple de Dieu. On peut aussi mettre cette demande en lien avec d'autres requête qui arrive dans les autres évangiles, à ce moment-là, il y a des personnes qui viennent tester Jésus. Fais-nous un miracle. Réponds à cette énigme par rapport à ce que Moïse nous a enseigné. Il y a des personnes qui veulent le mettre à l'épreuve. Et puis peut-être finalement, on ne doit pas se poser la question du pourquoi. Peut-être que cette question, Jean la laisse volontairement sans autre explication. Parce que l'essentiel, il n'est pas là. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette question, elle va donner l'impulsion de ce que Jésus va dire. C'est comme la base sur laquelle toute la réponse de Jésus va venir se construire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement, ces gens? Ils veulent voir Jésus. Et c'est ça qui compte. Est-ce que c'est pas là aussi condensé en une simple question, le résumé de bien de nos demandes à nous? Combien de chants de louanges nous disent pas « Nous voulons voir Jésus, nous voulons te voir élevé, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. » Mais j'aimerais vous proposer la suggestion suivante. Cette question-là, cette demande n'est pas juste religieuse ou juste chrétienne. C'est une demande universelle, c'est une demande de l'humanité. Elle reflète cette question, la quête spirituelle de toute l'humanité. J'étais dans un café à Morges en préparant ce message et à la radio est passée une chanson du groupe irlandais U2 qui, enfin, la chanson s'appelle I still haven't found what I'm looking for. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Et le couplet dit la chose suivante. J'ai escaladé les plus hautes montagnes. J'ai couru à travers les champs uniquement pour être avec toi. J'ai couru, j'ai rampé, j'ai escaladé les murs de ces villes uniquement pour être avec toi. Mais je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Il y a une quête spirituelle dans le cœur de chaque humain. Est-ce que l'on ressent aussi cette soif? Voir Jésus. Et c'est cette scène, ou plutôt cette scène, va se construire sur cette quête spirituelle. Il y a une demande, et Jésus la perçoit. Et c'est à cette demande qu'il apporte la réponse de Dieu. Et nous passons donc, comme le PowerPoint le présente de façon très pertinente, au deuxième point. Quelle est donc sa réponse? Quelle est la réponse de Dieu? Navré pour le contraste, je ne réalisais pas que les couleurs ici ne sont pas totalement idéales, voilà, mais je vais vous le lire si vous avez de la peine à le lire vous-même. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Alors quand on lit une telle réponse à une question simple, on aimerait voir Jésus, on sait qu'on est dans un évangile et on sait qu'on est dans l'évangile de Jean. Naturellement, on aurait pu peut-être s'imaginer que Jésus dit « Ils veulent me voir, ils ont qu'à prendre rendez-vous, hein ?» Comme tout le monde, finalement. Ou alors quelque chose du genre « Philippe, tu vois que j'ai pas mal de choses sur le feu. Peut-être juste avant l'heure du repas, 5 minutes, je pourrais le leur accorder. » Non. On est dans l'évangile de Jean, Jésus donne des réponses pleines de mystère, pleines de profondeur, et on va essayer de voir ce qu'il veut dire par là. J'aimerais vous proposer ceci. Le mot-clé ici, c'est l'heure. Tout au long de l'évangile de Jean, il est fait mention de l'heure de Jésus. Aux noces de Cana, lorsqu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vin, pardon, mais il y a de l'eau en abondance, il n'y a plus de vin, la mère de Jésus vient lui demander de faire quelque chose pour ses mariés désespérés. Et que lui répond Jésus, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas encore censé révéler l'entièreté de mon ministère. Mon heure n'est pas encore venue. Un autre passage plus tard, lorsque Jésus enseigne dans le temple et il échauffe un peu les esprits, il est dit, il cherchait donc, les religieux cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Que veut dire heure? On dirait peut-être aujourd'hui, son destin n'était pas encore arrivé, sa destinée n'était pas encore d'être arrêtée à ce moment-là. C'est la destinée pour laquelle Jésus est venu sur terre. Le temps, ici, une heure, c'est la temporalité, mais par extension, c'est la chose qui doit se passer durant cette heure-là. Et tous ces exemples nous montrent que Jésus est lié, obligé, par rien d'autre que par son heure. Autrement dit, ce qu'il a à accomplir, il va le faire à son rythme. Aucun homme, aucune femme, aucune puissance de loyauté familiale, d'autorité politique ou spirituelle ou religieuse ne peut lui forcer la main et faire de Jésus un autre Jésus. Mon Jésus, tel que j'aimerais que tu sois, fais ça maintenant ici pour moi. Non, Jésus est lié par son heure. Il n'est pas sur un plateau. Mais maintenant, dans ce dialogue-là, les non-juifs lui demandent « on aimerait voir Jésus » et il dit « l'heure est venue ». Enfin, l'heure est venue. Mais l'heure de quoi? Eh bien, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire. L'heure de la gloire. Jésus fait une concession à la demande du monde. Il répond aux nations. Il répond d'une façon universelle à cette demande universelle. Oui, il va être vu. Mais il va être vu d'une façon très inattendue. Et d'une façon tellement plus profonde que ce que l'on attendrait. Le Fils de l'homme sera élevé. On pourrait se dire magnifique, voilà la gloire, voilà son entrée dans la gloire. Il va enfin écraser les royaumes des hommes qui ont, après siècle, établi rien d'autre que de la corruption. Eh bien non, il ne va pas faire frapper sa monnaie à son effigie comme l'empereur romain annonçait son avènement en mettant son profil sur les monnaies. Il ne va pas recouvrir la terre de sa propre statue à son image. Et il ne va pas conquérir par la force, les peuples qui se refusent à lui. Jésus prend à contre-pied les demandes du monde. Et ce que le monde ne peut pas comprendre, c'est que pour entrer dans sa gloire, il ne va pas être élevé sur un trône, mais il va être élevé sur la croix. Et c'est ce qu'il a annoncé plutôt dans l'évangile à Nicodème, dans ce passage que vous connaissez sans doute. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà tout le problème. On comprend qu'il y a, je reviens à cela, une demande universelle du monde, une quête spirituelle. Et il y a une réponse de Dieu à cette demande. Le roi va être glorifié. Mais entre ces deux réalités, il y a un temps qui doit se passer. Il y a une heure qui doit se produire. Et cette heure-là, c'est l'expérience du grain de blé. Et c'est ce que l'on va voir dans cette troisième partie. Jésus va passer par l'expérience du grain de blé. Alors, on a perdu une grande partie des liens. On est dans une église rurale. Certaines personnes connaissent bien la terre, mais en tout cas, on n'a pas la même sensibilité aux images agricoles que lors du premier siècle, où beaucoup de familles dépendaient du travail de la terre. Mais pourtant, l'image nous parle. J'ai choisi de prendre ici une illustration légèrement différente, la pomme de terre. Par anachronisme, Jésus ne pouvait pas utiliser cette image puisque au premier siècle, elle était encore uniquement en Amérique latine, la patate. Bientôt, elle allait conquérir le monde. Mais voilà, moi qui commence à bien aimer cuisiner, j'aime beaucoup travailler la patate, ça me parlait plus. Et puis, en plus, j'ai un souvenir personnel qui... ma mère hier m'a dit au téléphone, non, c'était pas avec des patates, c'était avec des haricots, peu importe. Je me rappelle de l'endroit où j'ai pris conscience de cette réalité. La pomme de terre, et pas le haricot, la pomme de terre doit mourir pour donner naissance à toutes ces autres pommes de terre. Une patate qu'on met sous terre, elle a plus aucune chance. Elle va mourir. Alors que si elle reste hors de terre, bon, ben on peut en profiter, on peut la manger, mais on va manger qu'elle. Et c'est tout. On perd toutes les autres potentialité qu'elle contient en elle si on la place en terre. Je trouve cette image extraordinairement porteuse et parlante. Et que nous dit-elle? Est-ce que cette image parle de cette métaphore presque sportive? En fait, il y a quelque chose à perdre pour gagner quelque chose de plus grand, comme lorsqu'on s'entraîne pour un marathon, il faut souffrir, il faut se faire violence pour améliorer ses performances physiques. Peut-être que ça parle de quelque chose de cet ordre-là. Mais il n'y a pas quelque chose de plus profond. Que Jésus nous dit, il y a véritablement des choses qui doivent mourir pour vivre. Mais alors, c'est quoi vivre? C'est quoi porter du fruit? Est-ce que c'est avoir un ministère qui a du succès? Mais je crois qu'avec cette image, Jésus nous enseigne l'espérance chrétienne, la véritable espérance chrétienne. Alors, je vous propose de regarder, j'ai fait un petit tableau, c'est pas une étude biblique, mais on va s'arrêter un peu plus spécifiquement sur tout le dialogue que Jésus propose à ces non-juifs. Et pour tenter de comprendre la portée de cette parabole, c'est l'histoire d'un dilemme. On est à un carrefour. Et conformément à la pensée hébraïque, Jésus présente dans toute sa tirade deux possibilités, comme Moïse le dit à Israël aux portes de la terre promise. « Je mets devant toi la vie et la mort. » Il y a deux chemins. Donc premièrement, Jésus annonce son avènement, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Et puis la parabole présente ce double chemin. Regardons d'abord le premier parallélisme. Je l'appelle l'attitude égocentrique ou l'attitude humaine. J'avais de la peine à trouver le terme parfait pour cela, mais c'est cette première partie qui dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ». Imaginons que cette fois-ci, Jésus ne parle pas d'un grain de blé, mais d'une vie humaine. Celui qui aime sa vie la perdra. On est un peu choqué par cette idée-là. Est-ce que Jésus n'a pas justement encouragé chacun d'entre nous à aimer son prochain comme nous-mêmes? Il nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. Il nous encourage à nous aimer. Je ne crois pas que Jésus veuille nous dire « Ne vous aimez pas, ne prenez pas soin de vous, perdez-vous dans le ministère, de toute façon ce qui compte c'est les fruits que vous allez porter. » Non, je crois qu'il nous enseigne une autre leçon. Il y a des amours qui sont inspirés par la crainte. Combien de fois plaçons-nous notre argent, donc notre vie, nos ressources, dans la balance du choix que nous avons à faire? Ou alors notre réputation? « Non, je ne peux pas faire ça. » Ma réputation est en jeu. Alors, ce ne sont pas des choses faciles à gérer. Notre argent, il faut le gérer de façon sage, absolument. Mais il se pourrait qu'au final, si on aime notre vie au point même de refuser toute épreuve, la seule chose que nous soyons capables de sauver à la fin, c'est notre argent et c'est tout. Nous serons seuls avec notre argent. Ou alors, on aura juste sauvé notre réputation. Et c'est tout. Je crois que Jésus fait allusion ici à cet amour égoïste, à cette tendance égocentrique tournée sur soi. et intuitivement on se dit « je préserve ma vie de cette façon », alors qu'il semblerait pour Jésus qu'il y a un amour plus fort que la peur de perdre ces choses. Et si l'on regarde le deuxième parallélisme, cela fonctionne aussi. Si le grain meurt, il porte du fruit. Et de nouveau, dans cette façon de choquer, celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus savait les mots qu'il utilisait. Il voulait provoquer une réaction aussi parmi son public. Mais il ne parle pas de se détester réellement. Il parle de cette attitude sacrificielle, d'une capacité à aimer même si cela nous en coûte. Prenons l'exemple d'un jardinier. On regarde une personne au début du printemps transpirer dans son jardin, soulever des masses de terre, se salir toute la journée. La première impression, c'est que bon, il n'aime pas sa vie. Qu'est-ce qu'il subit ? Qu'est-ce qu'il s'inflige ? Il déteste sa vie. Il pourrait profiter de sa chaise longue, finalement. Bon, voilà, une petite limonade ou quelque chose de plus fort. Ça suffit. Il se fait tellement de mal. Mais si l'on sait qu'au bout du compte, dans quelques semaines, un magnifique jardin va sortir de terre, va sortir du fruit de son travail, est-ce que ça ne change pas notre appréciation de son activité ? Est-ce qu'on ne va pas considérer différemment les efforts que l'on voit mettre dans le travail de la terre ? Et regardons justement ici la conséquence. C'est quoi le jardin qui va sortir de cette attitude sacrificielle ? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, enfin j'étais un peu trop vite, pardon, je voulais dire, dans ce monde, il conservera sa vie pour la vie éternelle. Voilà le jardin qui sort, excusez-moi. L'enjeu est existentiel. Jésus parle ici de la vie éternelle. Et c'est là que nous entrons dans la dimension de notre espérance. Dans sa définition simple, l'espérance, c'est la pensée d'une récompense future qui nous aide à traverser l'épreuve du moment. Le jardinier, s'il ne sait pas qu'il y a ces fleurs, ce jardin qui va pouvoir éclore de son travail, son épreuve, j'en suis persuadé, sera plus lourde à porter. L'espérance, la pensée future de cet accomplissement. Et l'espérance chrétienne classique, ici, la vie éternelle. Telle que je l'ai appris à la comprendre, la vie éternelle, c'est que nous espérons tous aller au ciel. Alors les chrétiens essayent de traverser du mieux qu'ils peuvent leur vie sur terre, voilà, à savoir avec le moins de soucis possible, le moins de souffrances possible. Et pour nous, ça tombe bien, on est en Suisse, quand même plus facile à réaliser ça ici qu'en Corée du Nord ou en Afghanistan. Mais c'est la réalité, voilà, on essaye de traverser sans le moindre souci possible, on commet le moins d'erreurs. Et si on en fait, Jésus a déjà payé pour nous. Donc voilà, donc quand on meurt, on entre dans la vie éternelle, on le rejoint au ciel pour toujours, et on échappe à l'enfer. Voilà. Au risque de vous surprendre, je crois que la Bible ne parle pas de ça. Comprenez-moi bien, elle parle de l'enfer, elle parle de l'éternité. Mais notre espérance chrétienne n'est pas d'échapper à l'enfer. Notre espérance, c'est que la terre soit restaurée. C'est une nouvelle création que nous attendons. La restauration de la terre. Et nous ne sommes pas les seuls à l'attendre. Toute la création l'attend. Dans Romains 8, Paul dit ceci, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création a l'espérance, de nouveau le même terme, la création a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Toute la création attend cette restauration, qui n'est pas, encore une fois, d'échapper à la terre, d'échapper à cette souffrance ici-bas pour, floup, sauter sur un nuage et vivre éternellement notre présence au ciel. Non, nous attendons que le ciel descende sur terre. Le ciel, le domaine de Dieu, la réalité parfaite de Dieu qui revient ici-bas rétablir son règne. Et c'est ça la nouvelle création. Une création qui reflète la première. Lorsque Dieu a pris possession de ce jardin, lorsque Dieu a installé sa présence dans le jardin et qui vivait une communion parfaite entre la réalité de la terre et la réalité du ciel. C'est le temple de Dieu restauré. Et le croire en nous, cette vie éternelle, elle a déjà débuté. C'est pas une réalité future. Elle a déjà débuté. Tout au début de l'histoire que Jean raconte, il nous dit que Jésus a dit cela à un de ses futurs disciples. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus est la nouvelle création. Jésus est ce tabernacle, ce temple de Dieu qui unit parfaitement la réalité terrestre, pleinement homme, et la réalité divine, pleinement Dieu. Et écoutons la suite du parallélisme, et là nous y arrivons. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. À quoi ça ressemble cette vie éternelle, si on dit qu'elle a déjà débuté ici? Eh bien, être avec Jésus. Il est la nouvelle création. Et la promesse qu'il fait, qui est un parallèle de toute cette image, porter du fruit, conserver la vie éternelle, être honoré par le Père, être là où je suis. C'est la conséquence de cette attitude-là sacrificielle qu'il appelle de ses vœux. Alors, pris au pied de la lettre, cette affirmation est d'une banalité assourdissante. Voilà, si je suis mon pasteur à l'étage, là où sera mon pasteur, moi aussi je serai. Bon, merveilleux. C'est extrêmement simple, dit comme cela. Sauf qu'il ne s'agit pas juste d'une indication géographique, être là où est Jésus. C'est être avec Jésus, partager cette dimension nouvelle qu'il a instaurée, la création restaurée. C'est être capable de vivre la réalité du royaume de Dieu, cette générosité nouvelle, cet amour qui se donne. Et avec cette allusion, je crois que Jean invite les disciples de tous les âges et de toutes les cultures à comprendre que la grande espérance chrétienne, c'est cela, c'est être près de Dieu, que sa présence est tout pour nous. Et Jésus le dira plus tard, juste en priant dans le jardin de Gethsémané, la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est ça notre espérance, et elle débute aujourd'hui, au moment où nous choisissons de le servir et de le suivre, d'être là où il est. C'est une espérance qui nous est extrêmement nécessaire, parce que l'expérience du grain de blé, ou l'expérience du jardinier qui travaille sa terre, c'est une épreuve qui nous est connue et que l'on doit tous affronter quasi quotidiennement, de travailler pour quelque chose dont on ne perçoit pas encore les fruits. Et Jésus lui-même est confronté à ce dilemme et il l'exprime dans la suite en disant « Maintenant mon âme est troublée ». Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus cite ici le psaume 6, qui est un psaume de complainte, qui exprime sa tristesse et sa détresse dans une épreuve, et la prière naturelle qui est faite par la suite. Père, délivre-moi de cette heure. Et Jésus l'identifie ici à l'attitude du grain de blé qui souhaiterait rester seul. Jésus aurait toute la possibilité, il le dira plus tard, toute la possibilité de convoquer les armées célestes pour échapper à l'épreuve du grain de blé. Le diable même lui a donné dans le désert la possibilité de recevoir l'honneur et la gloire de tous les royaumes sur terre. Mais Jésus serait resté seul en son royaume, comme le grain de blé qui ne meurt pas est seul. Et que choisit-il de faire ? Eh bien, de suivre la seule voie. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est ça son heure. Il est venu pour cela. Et il va donc prier la prière qu'il nous a enseignée. Que ta volonté se fasse. Révèle la gloire de ton nom. Et nous retrouvons l'introduction de ce dialogue. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Père, révèle la gloire de ton nom. Et Jésus avait devant lui les yeux, l'espérance future de rassembler son peuple par son sacrifice et de glorifier son Père par cette action. Et c'est la voie qu'il choisit. Et donc en conclusion, cette épreuve du grain de blé, elle sera, je crois, tant qu'on est sur cette terre, toujours partie de notre réalité. On a tous des situations différentes et chacun ne vit pas sa mise en terre de la même manière. Mais on aura toujours, je crois, ces désirs contradictoires qui luttent. Quelle voie je vais suivre ? Et c'est pas à moi, depuis ce pupitre-là, de vous dire ce qui doit aller en terre. Mais j'aimerais vous laisser cette question-là. Qu'est-ce qui doit être aujourd'hui dans nos vies mis en terre pour que ma vie puisse porter du fruit? Qu'est-ce qui doit mourir pour que la vie que Jésus veut pour moi puisse émerger? Mais surtout, j'aimerais vous interpeller avec cette deuxième question. Est-ce que l'on sent ce désir qui a été à l'origine de ce dialogue? Est-ce qu'on veut voir Jésus? Est-ce qu'on veut voir émerger en nous cette réalité de l'espérance chrétienne, être avec lui là où il est? Est-ce que c'est ça qui nous motive dans nos journées? À travailler la terre, sachant que notre récompense, c'est d'être avec lui. Notre espérance est certaine, ça n'est pas un vœu pieux. Le plan de Dieu, final, c'est de restaurer la dimension relationnelle, c'est de restaurer toute la terre et que le ciel viendra parfaitement s'imbriquer sur la terre. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une ville qui n'aura plus de temple parce que Dieu sera au milieu de cette ville. Et au chapitre 22, verset 4, il est dit « Ses serviteurs verront son visage ». Et à la fin donc, le dernier chapitre de la Bible, nous voyons que le désir de l'humanité qui avait débuté ici dans ce passage « Nous voulons voir Jésus » sera pleinement accompli. Ses serviteurs verront son visage. Les nations seront incluses et verront son visage. C'est une certitude. Notre espérance tient fermement à cette promesse. Mais dans l'attente, cherchons à le voir. Cherchons à contempler son visage. C'est, je crois, uniquement sa présence qui peut nous aider à traverser l'épreuve de la mise sous terre. Je vais prier. Seigneur, merci d'avoir non seulement enseigné une voie à suivre, mais de l'avoir toi-même traversée. Il nous est dit que tu peux compatir à nos épreuves parce que toi-même, tu as subi nos épreuves. Et merci Seigneur, alors que nous sommes sur cette terre à cheminer entre espérance, déception, joie, souffrance et peine, tu nous dis que la fin de l'histoire, c'est celle-ci, nous verrons pleinement ta face. Et nous serons pleinement dans ta présence. Mais permets-nous de ne pas vivre dans cette dimension d'une vie éternelle future. Montre-nous que, en sortant du tombeau, tu as instauré cette nouvelle réalité. Et que partout où tu es de façon agissante, Seigneur, le ciel rencontre la terre. Aide-nous, Seigneur, à te suivre et à être véritablement là où tu es. Amen.